réplique Les Illusions Perdues avec Cécile Guilbert et Marc Lambron. Les protagonistes du roman de Cécile Guilbert, Les Républicains, et ceux du roman de Marc Lambron, Les Menteurs, ont plusieurs choses en commun. Ce sont de brillants sujets. Ils ont fait, dans les meilleures écoles, de très belles études. Ils sont nés trop tard pour avoir, comme on dit, fait 68. Ils appartiennent donc à une génération, celle des années 80, qui ne peut se prévaloir d'un grand événement ou d'un grand psychodrame fondateur. Et ils ont aussi cette particularité d'être très lucides sur eux-mêmes et sur leur temps. Qui sont-ils? Qu'ont-ils reçu? Qu'ont-ils transmis? Qu'ont-ils à nous apprendre? Que signifie leur vie? Que révèle leur trajectoire? Telles sont les questions que je m'apprête à poser aux deux auteurs. Et je commencerai par les titres. Votre roman, Cécile Guilbert, raconte les retrouvailles en 2016, à la sortie d'une émission de télévision, entre une écrivain et un banquier d'affaires qui ont été camarades d'études à Sciences Po rue Saint-Guillaume 30 ans plus tôt. De 17h à minuit, ils se jaugent, ils se jugent, se confient, se séduisent peut-être et discutent à bâton rompu. Pourquoi avez-vous appelé ce livre « Les Républicains » Cécile Guilbert?
D'abord, pour une dimension de provocation évidente qui en fait répondait à la provocation précédente d'un parti politique s'étant arrogé la République lors de son changement d'appellation. Bon, ça c'est la première raison amusante et provocatrice. La seconde, c'est parce qu'il est question beaucoup dans ce livre, à la veille d'une élection présidentielle décisive, celle de 17 quelques mois plus tôt, de ce qui est advenu de la République, notamment de la Ve République, qui est en crise, qui est décomposée, qui est malmenée. Et en même temps, ce sont quand même, et ça j'y tiens beaucoup, des êtres pour qui l'histoire de France ne commence pas la République précisément, qui prennent en compte une très longue histoire française à travers sa littérature, à travers les hommes politiques ou les rois qui l'ont façonné, dans un décor parisien qui est aussi celui de la monarchie, celui de la Révolution, puisqu'il y a effectivement une déambulation nocturne dans un trajet très particulier qui va globalement de la place des Pyramides à la place de la Concorde, et qui, pour des raisons symboliques évidentes, m'a permis d'évoquer toutes sortes de facettes de l'histoire de France.
Oui, mais les premiers républicains, il est vrai, comme l'a montré Mona Ouzouf dans sa très belle monographie de Jules Ferry, étaient des héritiers. Ils voulaient justement assumer l'intégralité de l'histoire de France et l'enseigner. Simplement, la République, c'est aussi la chose publique. Vous vous révoltez contre l'accaparement de ce terme par un parti politique, républicain parmi d'autres, mais d'un autre côté, à lire votre livre, on se demande justement si les surdiplômés, les plus brillants sujets de la génération dont j'ai parlé tout à l'heure, sont animés véritablement par le souci de la chose publique. Je cite une réplique de celle que vous appelez la fille en noir, donc à son ami Guillaume Fronsac. Je me demande si tu n'es pas, comme tous les crânes d'œufs de ta promo, ni révolté ni généreux, dépourvu de conviction comme de vision, pragmatiste, c'est-à-dire opportuniste, ne sachant au fond que rédiger des notes et réseauter. Et il est vrai que il est passé de la gauche à la droite, on l'a retrouvé dans différents cabinets ministériels, et on a un peu le sentiment que c'est un rapport à la chose publique un peu, disons, problématique que vous faites apparaître dans votre livre.
Oui, alors évidemment, comme il s'agit d'un roman et d'un personnage spécifique, si vous voulez, il n'y a aucun effet de généralisation dans mon livre, et en tout cas j'ai voulu que ce soit un livre nuancé, où on parle d'un individu, mais si vous voulez, c'est pas du tout, comme je l'ai lu dans la presse, un pamphlet anti-élite qui mettrait tout le monde dans le même sac. Il se trouve que cet homme n'est pas un héritier, c'est un produit de la méritocratie républicaine, il a passé des concours, il a fait Normale Sup, il a fait l'ENA. Certes, il a choisi l'inspection des finances, car précisément, il n'est pas un héritier, et c'est l'inspection des finances est souvent la voie que choisissent ceux qui ne sont pas des héritiers, précisément. Je pense que dans la jeunesse, et je l'ai vu parmi les gens de mon âge, ils sont animés, effectivement, par le souci de la chose publique, l'intérêt pour l'État, parce que c'est des gens qui sont aussi intéressés par l'histoire, qui aiment leur pays, qui veulent servir, et certains le font admirablement, et des milliers ne pourraient pas, évidemment, figurer sous les traits de Guillaume Fronsac, mais il se trouve que lui, Guillaume Fronsac, c'est quelqu'un qui est intéressé par le pouvoir,
oui, l'influence. Il a écrit un livre sur Machiavel.
Mais c'est pas quelqu'un qui fait de la politique. Donc il y a aussi ce distinguo qui est à l'œuvre dans ce livre, si vous voulez, entre être attiré par le pouvoir, la coulisse, l'influence, être une éminence grise, et puis faire de la politique. Je veux dire qu'il y a ses noblesses et ses grandeurs et ses servitudes, et qu'il est se confronter vraiment à quelle politique publique mettre en place, comment se faire élire, le rapport avec le pays, les électeurs, etc. Et donc ce qui est pointé, c'est ces hommes de cabinet qui, dans les années 80, peut-être par désenchantement idéologique, effacement du clivage droite-gauche, auront pour certains, mais pour certains seulement, pantouflé dans le privé, seront revenus dans la haute administration. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est précisément cette facilité qu'il y a de passer de la haute administration publique au secteur privé qui est maintenant contestée, puisque certains démissionnent de la fonction publique, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense à Bruno Le Maire et je pense à Emmanuel Macron, évidemment.
Bien, alors maintenant, je me tourne vers vous, Marc Lambron. Votre livre est plus ancien, ce roman. Il a été publié en 2004, mais moi qui l'ai lu tout récemment, j'en témoigne, il n'a rien perdu de son agrément, ni de sa pertinence. Trois personnages que vous décrirez en sont les héros. Ils racontent chacun à son tour son histoire. Et justement, vous intitulez étrangement ce livre « Les menteurs ». C'est étrange parce que ils se dévoilent et ils sont extraordinairement sincères. Alors, pourquoi les menteurs ?
D'abord, on pourrait répondre avec la phrase de Cocteau. Vous savez, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Qu'est-ce que c'est que le mensonge ? C'est sans doute cette distance de soi à soi-même que le temps impose ou dessine dans le mouvement d'une génération. En l'occurrence, comme vous l'avez dit, parce que c'est aussi un des thèmes, je crois, de nos livres, ce sont des générations blanches, en quelque sorte, interzones, intermédiaires. Moi, j'avais 11 ans en 68, et mon sentiment, je dirais presque depuis cette époque, c'est d'avoir été existentiellement surplombé par deux générations ou demi-générations assez démiurgiques, c'est-à-dire celles qui étaient issues de la Seconde Guerre mondiale et ensuite les baby-boomers de 68. Donc, quelle que soit la statue française qu'ils ont sculptée ou contre-sculptée dans cette empoignade générationnelle, les petits frères que nous étions avons hérité de ce qui était en train d'être frayé, et d'où la difficulté peut-être de trouver une note dominante ou un événement fondateur dans nos existences. Alors, les menteurs, rapidement, quel est le sujet ? Ce sont trois jeunes Lyonnais hypocagneux de 1974 qui se retrouvent 30 ans après et qui font le bilan. Le bilan, c'est que l'une d'entre elles, qui n'a pas intégré Normal, est devenue une journaliste de mode, qu'elle a acquiescé à tous les ponts aux ânes de cette culture, entre guillemets, de la presse féminine, dont elle se moque.
Et donc, c'est ça, acquiescé en se moquant. Donc voilà. Sa lucidité, est une sorte de rédemption.
Elle a une rédemption, mais c'est une rédemption assez douloureuse, avec un trait de génération, parce que ça passe par la dérision. Ouais. Et on pourrait aussi parler du rôle de la dérision dans la lecture du monde aujourd'hui. L'autre fille, qui s'appelle Claire, au contraire, en serrant les dents, périndée à cadaver, a suivi un cursus universitaire, quoi qu'il en coûte à cette génération. Et elle finit par écrire, autour de 45 ans, un pamphlet assez violent contre la télévision, qui l'agace beaucoup. Et puis au milieu, il y a un garçon qui s'appelle Pierre, et qui est un peu un navigateur à vue, et qui après, Normal Sup, s'est promené dans des zones que décrit aussi Cécile Gilbert, qui finit par devenir le fondé de pouvoir de la fondation artistique d'un grand industriel français. Qu'est-ce qui m'intéresse, et pourquoi passer par le roman ? Parce qu'après tout, Ariane Chemin a écrit un livre qui s'appelle La Promo, sur la promo de Sciences Po 86, qui était, je crois, à peu près celle de Cécile. Mais nous passons par la fiction. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans la fiction ? Je crois que c'est l'histoire. C'est la longueur d'onde historique. Et quand on lit le roman de Cécile Gilbert, comme elle l'a dit, on voit bien qu'elle s'inscrit dans un axe cardinal, qui renvoie à, d'ailleurs, il y a la Bastille, quand on prend la ligne 1 du métro, et puis il y a le Louvre, et puis il y a la pyramide, n'est-ce pas? Et puis il y a l'Arc de Triomphe du Carrousel, et puis il y a la Concorde, puis il y a les Champs-Élysées. Et puis l'Arc de Triomphe au bout. Donc c'est là que Cécile Guilbert place ses personnages. Moi, ce qui m'intéressait dans la fiction, c'est que je crois que dans la lecture que nous pouvons faire de nos vies en tant que jeunes intellectuels français, nous sommes assez largement surdéterminés parce que la littérature en a dit, notamment au XIXe siècle. Le titre de votre émission, c'est « Illusion perdue », roman de Balzac. Qu'est-ce que raconte « Illusion perdue » ? Au fond, des jeunes gens ambitieux et littéraires qui font partie d'un groupe qui s'appelle le Cénacle, avec un C majuscule, c'est Balzac, et on va les suivre jusqu'au terme de leur destin. Le terme de leur destin est contrasté. Rubempré se suicide. Louis Lambert finit à peu près fou. Mais Daniel d'Arthez, qui était le plus brillant et le plus intègre de ces jeunes écrivains, finit baron, homme politique, fortuné. Et je me demande si la littérature du XIXe siècle n'a pas prédéterminé une façon que nous autres Français avons de regarder, même quand on a 20 ans, notre futur destin. Stendhal parlait de brillant peut-être, une très jolie formule. Et pour moi, le grand roman, plus que Balzac peut-être, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert, qui décrit aussi un trajet déceptif. Alors je pense qu'il s'agit sans doute de raconter des déceptions et que nous sommes les chroniqueurs des modalités de quelque chose qui a été préécrit, en quelque sorte, et prévécu, au moins depuis le 19e siècle.
Mais alors, j'ai en effet donné ce titre à l'émission, mais en lisant vos livres, en travaillant, j'ai quand même vu un paradoxe. Le paradoxe qui est peut-être celui de la génération à laquelle vous appartenez, parce que on peut dire que les 68 heures ont vécu un moment d'illusion lyrique, qui fut aussi un moment grégaire. Lyrisme et grégarité, enfin, Kundera a écrit la chose là-dessus, sur cette alliance des pages magnifiques, mais bon, c'était la grande illusion lyrique, une illusion dont nous sommes sortis les uns et les autres, assez vite, notamment dans les années 70, avec ce que nous apprenions de la dissidence, etc. Donc nous avons fait, comme cela, notre éducation politique. Or, il me semble que pour cette génération, tout commence par une espèce de désillusion. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait une désillusion fondatrice. D'où cette phrase, justement, encore que j'ai citée tout à l'heure, des crânes d'œufs de ta promo. Dans les années 60, les crânes d'œufs, ils étaient quand même attirés par le désir de révolution, le changement radical, etc. Et là, tout commence avec une espèce de cynisme qui n'est pas universellement partagé, mais qui est quand même très présent, et ça fait choisir l'ambition plutôt que, justement, l'engagement. Est-ce que c'est pas la caractéristique, justement, sinon de votre génération? Vous n'aimez pas le mot, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, vous le dites dans votre livre, je ne l'aime pas tellement, mais en tout cas, des personnages de vos livres qui ont quand même quelque chose de représentatif. Cécile Guilbert.
Oui, c'est vrai que je ne suis pas du tout à l'aise et je n'assume pas et ne revendique pas ce terme de génération. Et la narratrice, le personnage féminin de mon livre, La fille en noir, le dit à plusieurs reprises. Bon, je ne rentre pas là-dedans.
Très bien, d'ailleurs.
Bon, mais je dirais que, en fait, quand on parle des nous n'avons pas eu notre événement fondateur, dites-vous, 68 ou autre chose. Moi, je dirais que, en fait, ce qu'on a connu, puisque, en fait, je remonte sur 30 ans, hein, ces personnages se retrouvent 30 ans après. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu le deuxième septennat de Mitterrand. Qui n'était pas brillant, dont on parlait déjà d'une sorte de décomposition, de fin de règne, je vous rappelle, le suicide de Crossou, enfin tout ça, bon. Mais en fait, je dirais que l'événement marquant de cette génération, si vous tenez à ce mot, c'est quand même l'effondrement du mur de Berlin, c'est ça l'événement en fait. C'est ça l'événement qui conditionne le début des années 90, espèce de dissolution des blocs, cette supposée fin de l'histoire.
Mais oui, on a parlé de fin de l'histoire d'ailleurs.
Voilà, Fukuyama, la fin de l'histoire, et puis cette espèce de martingale libérale dont on pense que voilà, elle va pacifier l'ensemble de la planète et que tout va bien se passer. Et à ce moment-là, aussi la privatisation d'un certain nombre de secteurs, la télé commerciale, bon, tout ça. C'est ce climat-là, les années 80-90. Et puis après, je ne parle même pas de l'éruption du numérique. Bon, voilà, c'est ça. C'est l'événement fondateur, c'est ça, l'effondrement du mur de Berlin. Et donc, pour les plus cyniques d'entre eux, évidemment, on voit très bien quel est le parcours possible. D'autant que pour ceux qui auront choisi, comme le personnage de Marc Lambon dans Les Menteurs, la carrière universitaire, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Il y a une déconsidération générale aussi pour ces professions. Ils sont mal payés, mal considérés. Enfin, bon,
c'est très
connaissez ça par cœur, j'y reviens
pas.
C'est
très intéressant ce que vous dites, parce que quand j'ai terminé, moi, mes études, que j'ai passé l'agrégation, c'était 1972, il n'y avait pour nous, je peux dire nous quand même, que la possibilité d'enseigner. C'est-à-dire, l'enseignement secondaire ne nous terrorisait pas. Moi, j'étais nommé à Beauvais, dans un lycée technique, à la lisière de la ville. J'y allais pas la peur au ventre. Et mon obsession n'était pas de tenir ma classe, parce que la notion de quartier difficile n'était pas apparue. Mon obsession, c'était de réussir mes cours. Et j'avais quelques idées pédagogiques un peu 68 tard. Donc, on faisait les classes en rond, etc., de temps en temps. Bref. Et puis après, évidemment, en même temps, on se disait, comment échapper au secondaire quand même? C'était, mais c'était par la fac. Et là, je vois en effet qu'il y a un personnage chez vous, Marc Lambron, Claire, qui choisit l'université dans laquelle, d'une certaine manière, je me retrouve. Elle a fait ce que j'ai eu envie de faire. Et puis, j'ai enseigné aux États-Unis. Après, les choses ont un peu changé. Si, à Polytechnique également. Mais pour Pierre, qui a fait de très bonnes études, la question ne se pose déjà plus du tout en ces termes. Il n'a pas envie et il entre au ministère de la Culture. Quant à Fronsac, il est votre personnage, Cécile Guilbert. Il est pygmalionisé par Alain Minc. Il intègre la fameuse Banque Lazare. Et ensuite, il est fasciné par DSK, qui a si bien contribué à faire sauter le barrage entre le service de l'État, et l'économie marchande. Déjà un tout autre univers, Marc Lambron.
Oui, alors sur la notion de génération que vous évoquiez, je suis un peu incertain. Je ne sais pas si elle a sa dignité sociologique, elle a sa dignité littéraire. Hemingway et Fitzgerald, par exemple, l'ont posé comme horizon d'une vie. Ortega et Gasset disaient « je suis moi et ma circonstance ». Alors quelle a été notre circonstance? Et notamment cette génération de 68 qui n'est pas la mienne, il y a une grégarité, dites-vous, mais je dirais que c'est, pour employer un oxymore, que c'est une grégarité d'individualité, parce que c'est aussi le culte de l'ego qui est collectivement monté à ce moment-là, et dont on voit d'ailleurs une sorte d'échéance maintenant avec la warholisation du monde, les selfies, l'Instagram, le Facebook, qui est une façon de narrer chaque jour et de se mettre en scène comme personnage d'une sorte de sitcom que seraient devenues nos vies. Mais je reviens en arrière. Moi, je suis, Cécile Guilbert, a le talent d'être plus jeune que moi. Moi, j'avais 20 ans, 77. Alors, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il se passe que les illusions lyriques, à ce moment-là, le prophétisme, elles vont avec une intellectualité qui est une intellectualité de gauche, essentiellement. Il me semble qu'il y a deux choses qui se produisent. 12 ou 13 ans avant la chute du mur de Berlin, c'est Solzhenitsyn, c'est l'impact en France des nouveaux philosophes. C'est donc la désillusion sur le prophétisme communiste, qui est déjà très, très, très oxydé. Donc l'abandon de ces espoirs, de ce vieil espoir. Et puis, c'est en 80, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Donc, la gauche du rêve devient la gauche du concret. Et Mitterrand a une pratique politique assez machiavélienne, pourrait-on dire. Donc, le cynisme le cynisme comme mode d'action est promu, me semble-t-il, à ce moment-là. Moi, je me souviens très bien d'édito dans Libération de Serge Julie, qui, à chaque coup fourré de Mitterrand, applaudissait le stratège. Donc, quand une stratégie remplace un idéal, et quand parallèlement la culture du veau d'or, la culture de l'argent, de mammon, comme disait Sinclair Lewis, devient prédominante avec la financiarisation du monde, il est évident que pour des jeunes gens ambitieux qui sont décrits dans nos romans respectifs, la question va se poser du choix entre l'intelligence sous-rémunérée, ça sera l'université, voilà, ou l'intelligence sur-rémunérée, et ça sera les différents veaux d'or de l'époque. Et je crois que ce dilemme, ou cette option, elle s'est posée à ce moment-là, et c'est là qu'il y a eu sans doute acquiescement, ou si on veut, une forme de trahison d'éclair, en quelque sorte. Alors vous dites que vous n'aviez pas peur du CEG, ou de... Moi j'ai vu dans ma génération de normaliens une certaine peur quand même devant ça, et dans ma génération, il y avait pas mal d'expatriations. C'est-à-dire que on partait vers des universités japonaises ou américaines qui offraient,
oui, c'est vrai,
une autre condition, un autre statut,
bien sûr,
et d'autres formes de respect que ce
non, mais
que,
c'était pas la
que
dans les années 70, c'était pas la peur de l'agression, c'était pas la peur de l'incivilité, c'était toute autre chose. Ça, c'est quand même venu plus tard. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de brillants étudiants qui fassent agression avec l'idée et la certitude qu'ils n'enseigneront pas.
Mais moi, je peux vous dire, par exemple, comme cobaye, j'étais normalien, j'étais agrégé de lettres, très bien. Pourquoi est-ce que j'ai fait Sciences Po, Elena? Peut-être par comme une fuite en avant, comme une façon de différer le moment du choix. Et peut-être sommes-nous une génération qui a bien des égards à différer le moment du choix. Aussi par une forme d'idéalisme littéraire, je me raccrochais à l'idée qu'il y avait eu des écrivains diplomates et qu'après tout, pourquoi ne pas recommencer à la mesure de chacun l'époque.
Donc vous avez su très tôt vous alliez devenir écrivain.
Oui, mais qu'il fallait trouver des stratégies d'accord. Et d'ailleurs, c'est là que la République a été... Il y a un pacte, au fond. Il y a eu un pacte entre la République, les Républicains, dont parle Cécile Gilbert, qui est que, à partir de la Troisième République, vous passez l'agrégation, vous avez un traitement assuré, une pérennité de votre carrière, et en contrepartie, vous avez le loisir d'écrire. Et des gens comme Sartre, comme Guénaud, comme Gracq, jusqu'à Dominique Fernandez, ont fonctionné sur ce mode-là. Moi, j'ai eu peur que ça se dégrade, et je me suis dit, allons plutôt dans une ambassade, et puis là, j'écrirai ouvert la nuit. Bon, et puis il se trouve que j'ai fait autre chose, je fais le Conseil d'État, mais il y avait quand même cette idée de pérenniser ou de maintenir, de proroger ce pacte, en écrivant des livres, quoi qu'il en soit, et malgré tout.
Mais votre personnage, Pierre, il dit ceci au début du livre. « Nous étions à l'école des prêtres laïcs, promis au magistère, à la préservation du savoir, à la propagation du rite. » Et c'était en Cagne, et donc, effectivement, nous étions aussi essorés de travail. Or, d'emblée, il choisit, Pierre, une autre voie, et c'est pour ça que je parlais presque d'illusion, de désillusion de départ, parce que il ne croit ni dans cette espèce de sacerdoce républicain que serait l'enseignement, que ce soit l'enseignement dans le secondaire ou même en fac. Il choisit déjà le ministère de la culture, et il est d'emblée gagné malgré tout par un certain cynisme, ce qui le distingue de Claire, qui, elle, sait s'obstiner, justement, dans la voie qu'elle a choisie et qui enseigne avec les déceptions inhérentes à une profession qui n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir.
Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a eu une époque, on peut dire il y a un siècle, en France, où il n'y avait pas d'écart entre la culture humaniste reçue et le fait d'avoir un destin politique, voire économique. C'est-à-dire que si vous êtes Jaurès, Herriot ou Blum, vous n'allez pas abjurer votre alma mater. C'est au contraire, en connaissant la littérature gréco-latine, en ayant ce sens oratoire de la belle période, que vous allez devenir un homme politique éminent. Et après tout, même Jacques Rueff, qui est le grand économiste français du XXe siècle, il a fini à l'Académie française. Bon, ce qui se passe avec nos générations, c'est qu'il y a évidemment discordance entre la prorogation, la transmission de cette culture essentielle qui nous constitue comme citoyens, comme français et comme êtres de culture, et puis cette espèce de alors qu'est-ce qu'il faut dire, d'américanisation du monde, de financiarisation des critères qui fait que d'autres savoirs s'interposent, et que dans les élites françaises, une école est apparue en 1945 qui est l'ENA. Non, oui. Donc cette sorte d'exode, de brain drain pour le dire en français. Moi pourquoi j'ai fait l'ENA, parce que j'ai fait l'ENA aussi, j'avoue mes crimes, c'est que je rencontrais des jeunes énarques sur la place de Paris, je les trouvais à la fois suffisants et insuffisants. Et je me suis dit, je ne vais pas me laisser gouverner toute une vie par ces prétentieux. Donc tant qu'à faire, Monterland disait, tout ce qui est atteint est détruit, je vais faire comme eux, j'en ai les capacités, j'en avais les capacités, et on verra une fois dans la place. Et ça m'aura évité pendant toute une vie d'être toisé par ceux dont j'étais devenu un des pairs. Et après, j'ai eu la liberté de la dissidence, c'est un grand mot, enfin en tout cas d'une certaine discordance intérieure qui passait par l'écriture, car que l'on sache, l'ENA n'est pas encore la NRF, si vous voulez. Mmh. Mais ça n'interdit pas non plus d'écrire, dont acte.
Vous parlez de l'ENA. Et ça m'évoque une phrase de votre livre, Cécile Gilbert, quand vous faites allusion à l'histoire des 13 de Balzac, et vous parlez de l'envers de notre histoire, de l'histoire contemporaine, Et c'est le jeu complexe des ambitions, passions, combinaisons, supputations, desseins, ressorts, intrigues, manœuvres, plans de carrière, renvois d'ascenseur, qui s'agitait dans des centaines de cervelles surinformées des hauts fonctionnaires, politiques, grands patrons, syndicalistes, personnalités médiatiques universitaires, composant cette mécanique à produire du consensus et raillait ses contempteurs de la pensée unique. Est-ce que c'est ça aussi qui a produit justement le nouveau système des grandes écoles? Et votre Guillaume Fronsac n'est-il pas un porte-parole de cette pensée unique à laquelle la fille en noir elle-même est réfractaire, puisque elle n'a pas choisi la voie de l'ambition, de la réussite financière? Elle s'obstine à écrire des essais rares et qui ne lui voile pas forcément la reconnaissance qu'elle souhaiterait.
Bon, l'honnêteté m'oblige à dire que la fille en noir, elle aurait bien voulu faire l'ENA aussi, parce qu'elle savait bien, comme le dit Marc Lambron, que voilà, la carrière des lettres, c'est pas forcément très facile, et qu'après tout, quand on a un job effectivement dans une ambassade ou dans une haute administration, on a tout le loisir d'écrire. Donc elle était quand même dans ce schéma, et en fait, son échec à l'ENA fait que bon, elle aurait peut-être pu le retenter et sans doute l'avoir, mais enfin, bon, elle s'est quand même lassée de ces matières austères qui étaient fort ennuyeuses, et elle s'est lancée, elle a fait un peu de cabinet ministériel, et après, elle s'est lancée vraiment dans la littérature, et donc sans aucun filet de sécurité, puisqu'elle n'est pas enseignante ni issue de l'université. Bon, la pensée unique, on a dit beaucoup que c'était effectivement ce sorte de néolibéralisme étendu à tout, de cette pensée du consensus. En fait, quand je fais allusion à l'histoire des 13, bon, je fais allusion au cercle, en fait. Fronsac, il est un... On parlait de littérature balzacienne, de cette matrice tellement prégnante dont on a beaucoup de mal à s'échapper. En fait, comme on vit quand même dans un pays très centralisé, où tout se passe presque à Paris, dès qu'il est question de pouvoir, d'ambition et de Paris, on est forcément dans du néo-balzacien, du post-balzacien. Donc voilà. Le siècle, bon, c'est aussi des fantasmes, de beaucoup de gens. Mais enfin, Fronsac, il a été refusé au siècle, donc il n'y appartient pas. Mais évidemment, il fait partie d'une forme, de cet establishment, de cette endogamie intellectualo-médiatico-politique qui existe, même quand on tombe pas dans les fantasmes de société secrète ou de grand Manitou, manigant sans tout contre le peuple, et cette fameuse oligarchie, etc. Moi, j'ai veillé à ce que, effectivement, le discours critique, ironique, moqueur sur certaines élites, c'est-à-dire soit bien différencié de aussi ce qu'on peut appeler l'élite dans le pays, qui sont voilà les scientifiques, les grands intellectuels. Bon, c'est pas tout pourri dans un coin, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça encore que je le répète, j'ai été surprise de voir ce livre mal lu sans doute parce que trop rapidement ou trop sommairement, si vous voulez, faire de ce livre un pamphlet. C'est pas du tout ça. Mais effectivement, il y a cette endogamie, cette connivence parisienne, c'est indéniable.
Je veux dire une chose sur ce qui, je crois, fait le prix du roman de Cécile Gilbert, c'est qu'elle n'est pas poujadiste. Elle n'est même pas une poujadiste cultivée. Elle n'est pas mélenchonienne. Donc elle a fait Sciences Po, elle connaît la musique, elle connaît elle a des camarades. Donc elle peut se prévaloir d'une vision à la fois interne et externe, car elle est aussi l'auteur de livres sur Saint-Simon, sur Andy Warhol, et Saint-Simon comme Warhol et comme Debord aussi. Sont d'assez bonnes clés de lecture pour mettre en perspective ce qui se passe et en faire autre chose qu'une sorte de guerre entre les having et les having not, entre une synarchie qui gouvernerait nos vies et les spoliés que nous serions. Je crois qu'on gagne toujours, dans une société aussi articulée que la société française, à être subtil, mais la subtilité n'interdit pas évidemment ensuite le blâme ou la satire. Parce qu'à tout le moins, je crois que c'est un point commun entre nos livres, nous ne nous privons pas de rigoler, de ricaner. Alors c'est peut-être l'affreux ricanement voltairien que n'aimait pas Baudelaire, mais bon, il est permis parfois d'avoir le rictus de Ferney.
Il n'y a pas simplement du ricanement, je reviendrai très vite en tout cas, à votre livre Cécile Guibert et votre personnage Guillaume Fronsac, mais il y a une formule qui m'a beaucoup frappé, Marc Lambron, dans votre roman. C'est Pierre qui s'exprime, et c'est la fin du livre. Et je voudrais que vous la commentiez. Je trouve qu'elle dit beaucoup de choses de l'époque. Par-delà, là, c'est une séparation, en effet, assez artificielle entre générations. Vous écrivez, ou faites dire à Pierre, il existe une souffrance de l'intelligence dans le monde moderne, supérieure sans doute à ce qu'elle a pu être il y a 30 ou 40 ans. J'ai été très frappé par cette phrase et je voudrais que vous en donniez la clé.
Alors, je crois que la souffrance de l'intelligence, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, d'abord une certaine intelligence ou une certaine forme de culture qui a été désavouée par ceux qui prenaient le pouvoir ou qui tenaient les rênes. Et puis, je dirais que la souffrance de l'intelligence, c'est peut-être un type d'intelligence qui était celle de notre jeunesse, je vais parler comme de grands auteurs, et qui était une intelligence analytique et, je dirais, sémiologique, c'est-à-dire l'habitude bartésienne que nous avons pu prendre de tout décrypter, qui est un rapport assez aigu à l'intelligible. Quand on a ces grilles de lecture, et qu'on entre dans la bouffonnerie quand même, et une certaine vulgarité, c'est pas un mot que j'aime, mais du monde contemporain, une certaine arrogance d'une forme d'inculture sidérante. Je vais pas m'en prendre, je vais pas étrangler Monsieur Hanouna après tout le monde, mais enfin le crédit qui est fait d'effrayantes, de stupéfiantes fariboles fait que les intelligences un peu raffinées ou les intelligences décrypteuses peuvent se sentir, on peut se sentir personnellement atteint, voire bafoué par un certain nombre de... Enfin, ce n'est pas à vous, Alain Finkielkraut, que je vais l'apprendre, et que plus les capteurs sont affinés, plus peut-être une certaine douleur peut être ressentie et intensifiée. Je crois que c'est ça que veut dire cette phrase.
Oui, un mot sur Cyril Hanouna. On a l'impression que tout le monde se mobilise contre son déplorable plaisanterie homophobe, hein, mais tout se passe comme si le reste devenait acceptable. Alors ce que vous dites, la souffrance de l'intelligence, c'est effectivement la place centrale que ce genre, je sais pas, d'humour, si tant est qu'on puisse employer un si beau mot pour ce qu'en fait Hanouna, a pignon sur rue et tient le haut du pavé.
C'est-à-dire, je crois, alors je reviens sur cette idée de souffrance de l'intelligence, je crois qu'il y a eu un mode d'appréhension des choses qui n'est pas du tout le décryptage, mais qui est la dérision. Ça, on peut en parler, et ce qu'on pourrait appeler l'esprit Canal+, si vous voulez, dans les grandes époques. C'est-à-dire, il s'agissait, par le rire, de givariser tout ce qui est grand. Une sorte de réduction au rire, de rendre commensurable, au fond, tout ce qui nous dépasse. Donc, Le Monde a été créé en 1950, c'est-à-dire que Elvis Presley, c'est le Jurassique, et les Beatles, c'est le Crétacé, tout ce qui est venu avant et hors la loi, et tout ce qui pourrait dépasser, ou toute verticalité est vécue comme offensante, et elle est réduite précisément par la dérision. Alors ça, je crois que ça aura été un trait, sinon de notre génération, en tout cas du monde dont nous aurons été contemporains, et peut-être est-ce en train de finir, qui aura été le fait que c'est Lilliput, au fond, et que les homoncules auront lié voilà, avec des liens, les possibles Gullivers du temps.
Oui, mais c'est peut-être la question, c'est voilà, et c'est une question que se pose à un moment mon personnage, c'est que tout ça est tout à fait juste, mais à un moment on a l'impression qu'on fait partie d'un monde où la puissance d'arrachement est telle qu'on est même plus à parler de génération ou de notre pays, quoi. J'ai l'impression que moi, cette affaire est complètement métaphysique. Enfin, c'est la phrase de Nietzsche, le désert croit, et ça c'est en route depuis très longtemps, ce processus. Donc, comment croire encore que des hommes peuvent façonner le destin des peuples, avoir une prise sur la défaisance du monde, sur le ravage planétaire, etc. Enfin bon, moi j'ai été très marqué par la lecture de Heidegger dans ma jeunesse. Je me souviens que dans les années 90, j'étais proche d'une revue où relisions méthodiquement Heidegger, où lisions ce que nous n'avions pas encore lu, et on était déjà dans cette analyse de ce monde au début des années 90, et tout le monde nous ricanait au nez. Et en fait, tout ce discours a surgi maintenant à la faveur, effectivement, du retour tragique de l'histoire, du terrorisme, des empoignades théologico-religieuses, du nouveau totalitarisme islamique, etc. Et donc tout ce discours sur le nihilisme est revenu beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Mais c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis très longtemps. Et ce refus de la verticalité, cet écrasement symbolique, cette détestation, effectivement, de tout ce qui pourrait être de la grandeur, ou ce ricanement perpétuel sur ce qui pourrait être grand, noble, ce qu'on admire, tout ça est planétaire.
Alors c'est planétaire, et c'est aussi présent chez ce Guillaume Fronsac, justement dans ce moment où il veut sortir le cynisme et le carriérisme qui est le sien, puisqu'à un moment donné, il dit à la fille en noir, regarde autour de toi, tout craque de partout, notre modèle est obsolète et l'aspiration à davantage de démocratie directe est en marche, on ne l'arrêtera plus, le divorce entre le monde politicien et la société civile est consommé, le roi est archi nu, ce qui suffit à juger complètement déphasé, le bal hors sol des prétendants à l'Élysée, qui ferait bien de revoir de fond en comble leurs logiciels antiques. Mais moi j'étais très étonné de cette sortie, parce que en fait... Ce à quoi il se réfère, c'est les mouvements citoyens, peut-être est-ce à Nuit Debout, mais à Nuit Debout, cette espèce de haine de la grandeur et d'égalitarisme féroce était à l'œuvre. Moi, je me suis acheté un recueil des textes de Nuit Debout, et la commission éducation affirme sa conviction que les élèves sont tous et toutes également capables de tout. Il appartient aux éducateurs et aux éducatrices et à la société de leur en donner la possibilité. Les savoirs transmis doivent être diversifiés et leur hiérarchisation critiquée. C'est-à-dire plus de hiérarchie du tout, plus de grandeur. On n'est pas dans l'univers de la dérision. Mais ça revient au même. Ça revient exactement au même. Donc la nostalgie qu'il a d'un peu d'idéalisme ne nous avance pas à grand-chose. Malgré tout.
Vous avez raison. Je voudrais dire qu'il y a un moment, en fait, dans les circonstances romanesques du livre, en fait, il essaye de séduire cette fille en noir, ce Guillaume Fronsac. Et à un moment, il se dit, alors qu'il n'est pas du tout... C'est un gracquien du Club des Gracques. Enfin, c'est un social-libéral.
Oui, vous parlez de la création de ce Club
voilà,
des Gracques.
Voilà. En fait, il essaye de la séduire. Il s'imagine qu'elle est de gauche, alors que je mets au défi le lecteur de savoir quelles sont les opinions politiques de la fille en noir, peu importe. Et il essaye de la déborder sur sa gauche. Et il tient effectivement un discours... qui est pas mélanchoniste, mais enfin où il y a un peu de la révolution citoyenne, il y a un peu de cette notion-là de parce qu'en fait, sans tomber dans une certaine pauvreté de ce qui a pu être dit à Nuit Debout, ou en tout cas une absence comme ça de pensée théorique forte qu'on a pu constater, il y a quand même, et ça il faut pas être grand clair pour le constater, il y a quand même une aspiration dans le pays, et d'ailleurs on a vu ce qu'elle donne plus tard, à effectivement d'autres formes de gouvernance, une participation citoyenne, peut-être plus de démocratie, certains pensaient que ça passait par le changement des institutions, une 6e République, d'autres pas, et Macron lui-même qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, dont je ne pense pas qu'il est purement un cynisme de librairie, si vous voulez, tout se débloquer, tout vibrayonner dans les cervelles, et Fronsac est tout à fait fondé dans un monde où les gens sont plus éduqués, plus connectés, pas si moutons et imbéciles qu'on le dit, plus informés en tout cas, ça c'est sûr, même si moins cultivés sur le plan des humanités classiques, si vous voulez, de se faire le porte-parole en fait de ces changements qui peuvent arriver à la faveur d'une décomposition française particulièrement gratinée.
Juste un mot sur Nuit Debout. Bon, c'était une sorte de synode des haltères. C'était un kaléidoscope d'un certain nombre de marchandises théoriques vendues sur le trottoir. Très bien. Mais je crois qu'il faut quand même se prémunir contre deux pièges. D'abord, le premier piège, ça serait de dire c'était mieux avant ou on n'a jamais vu ça. Il y a pire que Nuit Debout. Si vous relisez les chapitres de l'éducation sentimentale de Flaubert que j'évoquais tout à l'heure sur 1848, vous avez une saisissante description, mais en stéréo, si j'ose dire, du petit événement en mono qu'a été Nuit Debout. Ça n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des babouvistes fous, il y a déjà eu des prophètes de Carrefour, et il y a déjà eu ce type de pensée dans les socialismes utopiques du 19e siècle. Le deuxième piège, je crois, c'est le piège de l'amertume. Et c'est ce que veut le démon. Moi, je crois à un démonisme, sans être superstitieux, mais je crois que le démon de l'esprit, il nous veut amer. Il nous voudrait en récession par rapport à ce que nous sommes. Il voudrait que nous soyons des êtres du ressentiment. Et il me semble que un des enjeux très excitants du seul fait de vivre aujourd'hui, c'est comment dire oui. Et comment dire oui et comment être en accord, je dirais presque musical, comme personne, trouver le bon son, comme disent les hindouistes. Et ça, c'est à faire. Et le désespoir n'est pas notre loi, me semble-t-il.
Bien. Alors, le discours sur l'école que je vous ai lu, me semble, moi, plein de ressentiments, et notamment à l'égard de ce qui nous réunit, la culture. Mais ne nous attardons pas sur cette question. Et justement, réfléchissons à partir de ce que vous venez de dire, Marc Lambron, à l'actualité. L'actualité, c'est notamment l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et de cette élection, il est question dans la conversation à bâton rompu entre vos deux personnages, Cécile Guibert. Alors, que se passe-t-il? Que signifie cet événement? Est-ce le triomphe ultime de ce que vous appelez la pensée unique, plus de gauche, plus de droite, mais des progressistes qui pourraient occuper tout le champ? Ou bien est-ce une union inattendue et porteuse d'espoir, donc on peut dire oui peut-être, entre le pragmatisme et un certain idéalisme? On voit autour du mouvement En Marche des énergies se libérer, de nobles ambitions apparaître. Des jeunes gens de 30, 40 ans se présentent aux élections législatives, attirés qu'ils sont effectivement par la chose publique, républicains en ce sens-là. Alors, que penser et qu'en penseraient surtout vos personnages, tous vos personnages, de ce phénomène, Marc Lambron?
Alors, je vais commencer par le petit bout de la lorgnette. Nous sommes samedi, et avant-hier soir, Emmanuel Macron est apparu à la télévision pour parler en anglais. D'abord en français, d'abord en anglais. Et il a dit « Make the planet great again ». Qu'est-ce que j'entends dans cela? Non pas une concession à l'espéranto ou au globish que serait devenu l'anglais. Comme dans un certain nombre d'actes, depuis sa prise de fonction, la pyramide, la remontée des champs, sa visite aux troupes, Poutine à Versailles, il y a quelque chose, puisque je crois aux éternels retours, et qui m'évoque sympathiquement mon enfance, c'est-à-dire le climat en noir et blanc avec chaîne unique de la République gaullienne. Et cette époque où des hommes d'État, je pense à Kennedy ou je pense au général de Gaulle, allaient parler dans la langue de l'autre, avec des formules frappantes qui faisaient histoire. « Ich bin ein Berliner » de Kennedy à Berlin, ou « La mano en la mano » du général de Gaulle au Mexique. Et dans ce « Make the planet great again », qui est une formule extrêmement frappante, qui va être sur les calicots et les t-shirts des manifestants, des protestants de toute la planète, il y a quelque chose. Il y a du Made in France en anglais, c'est assez curieux, mais il y a une génialité warholienne, ma chère Cécile Guibert, de la formule, qui fait image. Ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Après, peut-être, vous dirais-je autre chose, mais peut-être que Cécile Guibert.
Et je commenterai Make the Planet Great Again. Cécile Guibert.
Bon, je pense qu'il faut peut-être distinguer des enthousiastes qui se sont mis en marche de la personnalité spécifique d'Emmanuel Macron. Peut-être que beaucoup de gens qui se sont mis en marche, comme on dit, ou qui ont voté pour lui, ou qui sont enthousiasmés, sont aussi des gens de tous horizons, beaucoup aussi des banlieues, qui s'imaginent que voilà, il y a cette dimension managériale, si je puis dire, ou ce côté start-up, si vous voulez, qui peut les séduire. Bon, je suis très frappé d'ailleurs à propos quant à la composition du gouvernement de ce terme de société civile. Je trouve ce terme idiot. Et d'ailleurs, c'est en creux la critique aussi d'une forme dévoyée de l'énarchie. Parce que ce qu'on peut dire peut-être, et ce que aussi mon livre a essayé de montrer dans ce roman, c'est qu'il n'y a peut-être pas de légitimité à ce qu'on soit entièrement gouverné seulement, exclusivement par l'énarchie. Hein. On a bien vu, on a vu la promo Voltaire. Mais je pense qu'il y a aussi une lassitude dans le pays et quand je parle de la révolution citoyenne tout à l'heure, tout ça se reboucle, c'est-à-dire que après tout, les citoyens peuvent aussi participer à leur destin et c'est tout à fait bon et c'est tout à fait bien et des gens d'En Marche qui se présentent à la députation sont animés par ce bon, ils vont peut-être déchanter, c'est peut-être très compliqué, on ne sait pas, mais en tout cas dans cette histoire de société civile, il y a la critique en creux de l'énarchie et en fait cette société civile, moi, elle m'apparaît plutôt comme des émanations, si vous voulez, de managers, c'est plutôt ça qui rentre au gouvernement. Après, il y a la personnalité du président de la République, dont je salue comme Marc Lambron le rétablissement symbolique, les paroles fortes, l'intelligence stratégique, et aussi sa formation de philosophe, mais peut-être on y reviendra, parce que je pense que c'est un joueur d'échecs et que cette formation philosophique est chez lui plus forte que sa formation énarchique.
Bien. Marc Lambron, j'aurais une question à vous poser.
Oui, ça, je suis d'accord avec Cécile Guibert là-dessus. Pourquoi est-ce que Macron m'a intrigué? Enfin, il n'y a pas que moi, si vous voulez. C'est qu'il me semble, si on essaie de faire un peu de décryptage, qu'il concentre les quatre formes du pouvoir qui ont eu cours en France depuis un siècle. Bon, la République des professeurs, on en a parlé tout à l'heure. Ricoeur est là. Il a été l'assistant de Ricoeur et véritablement, semble-t-il.
L'assistant, et pas l'assistant universitaire.
Sur
il
un
a
livre.
Aidé Ricoeur voilà. Pour son dernier livre sur l'histoire, la mémoire et l'oubli.
Il l'a beaucoup fréquenté.
Ce qui est assez frappant par rapport au jeune Jean de Monnage, si vous voulez, nous étions en plein déconstructionnisme. Lui va vers Ricoeur, c'est-à-dire une philosophie du sens, en réalité. Il va vers esprit et pas vers critique ou vers tel quel. Deuxième chose, en effet, c'est les deuxièmes formes du pouvoir depuis un siècle, c'est 45-75, les Trente Glorieuses. Il a sacrifié à l'image du technocrate. Il est un technocrate, il est un inspecteur des finances, il a même été ministre. Troisième figure, c'est la financiarisation, c'est la banque, c'est Wall Street. Il a passé 3 ans chez Rothschild. Il coche aussi cette case. Et enfin, dernière figure depuis une dizaine d'années, c'est la culture Internet et c'est de son âge. Chercher parmi les autres hommes politiques en France qui cumulent ça, prenez Mélenchon. Par exemple, Mélenchon, il a tout à fait le côté république des professeurs, mais il exècre l'ENA. Donc les 30 glorieuses technocratiques, il exècre la finance, donc les 20 années. Et en revanche, avec ses hologrammes...
Il aime bien les nouvelles technologies.
Il coche, hein. Voilà. Donc il a 2 sur 4, si coche, vous voulez. Oui. Mais Macron a 4 sur 4. Mais... C'est une façon sommaire d'approcher un profil, mais bon.
Alors quand même, make the planet great again, c'est une formule qui a quelque chose de génial. Il n'empêche qu'il a voulu, il le dit, remplacer le vieux clivage exsangue, périmé, droite-gauche, par le clivage conservateur progressiste. Si on veut make the planet great again, il faut pas changer, il faut sauver. C'est pas, il faut poser des limites. C'est, voilà, le progrès a fait énormément de dégâts, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Nicolas Hulot, puisqu'il a cité en la massacrant la fameuse phrase de Camus, la tâche de notre génération ne consiste pas à refaire le monde, mais à empêcher qu'il ne se défasse. On n'est plus du tout dans l'optique progressiste, donc il faudrait aussi qu'il révise cette espèce d'opposition pour la mettre en accord avec ce qu'il sait dire par ailleurs. Et puis, il y a quand même une question que je voudrais vous poser à tous deux. Lorsqu'il était candidat, il a dit « il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, elle est diverse et elle est multiple ». Il a récidivé dans un article du Figaro en disant que le terme d'identité, qui est évidemment racorni, ne doit pas être accolé à celui de culture française, parce que c'est l'invariance à chaise continuité, alors que ce qui caractérise la culture française, c'est la France, c'est une ouverture sans pareil. Un pays, c'est une expérience partagée. Comment voulez-vous partager une ouverture? Et je m'étonne que très peu d'intellectuels aient protesté, comme si pour eux, effectivement, l'idée de culture française n'avait pas d'importance, parce que, et n'a oblige ou autre chose, les sciences économiques et les sciences sociales ont un peu marginalisé, sinon fait oublier les humanités. Alors comment vous avez-vous réagi à ce discours? Est-ce que vous l'avez pris au sérieux? Est-ce qu'il vous a touché, blessé? Enfin, que, ça m'intéresserait de le savoir. Cécile Guilbert.
Bon, je vous avoue que sur le moment, bon, j'ai pas entendu en direct. J'ai vu qu'il y avait effectivement une polémique sur cette question. Je l'avais pas vraiment suivi. Oui, bah sur le moment, ça, évidemment, quand cette polémique a été rapportée, ça m'a choqué. Bon, après, j'ai relativisé parce que. Bon, c'est peut-être un dérapage comme ça d'une phrase. Par ailleurs, j'ai entendu d'autres propos de Macron sur la culture française, l'identité française, la langue. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Je sais que pour lui, évidemment, l'identité française, c'est surtout la langue. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est précisément l'idée que je m'en fais. C'est-à-dire un pays qui, depuis la chanson de Roland, réfléchit son histoire à travers des livres, qui ne sont pas forcément des romans. Ça, c'était très du 19e siècle. Mais si vous voulez, à travers des mémoires, à travers des conseillers du prince qui ont pris la plume, des hommes de des courtisans, le cardinal de Ré, des mémorialistes, etc. Et des gens aussi, beaucoup, qui ont eu des carrières politiques et littéraires. Beaucoup au 19e siècle, hein, Chateaubriand, Lamartine. Bon, je refais pas le tableau. Donc, si vous voulez, je vais plutôt fait crédit, en fait. Hein, je vais plutôt fait crédit, ça m'a pas... Il aurait été, par ailleurs, sur plein d'autres plans... Dans un angle que j'aurais trouvé critiquable, je l'aurais peut-être sans doute fait moins crédible. Bon, moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est que je pense pas qu'il ait des goûts littéraires extraordinaires ou très singuliers, ça, pas du tout. Hein, je pense que c'est le bon élève, mais qui a un peu lu. Il y a rien de saillant. Il y a pas vraiment un goût, si vous voulez, singulier qui démarque. Mais en fait, c'est sa formation philosophique, parce qu'il y a effectivement Ricoeur, comme le dit Marc, mais aussi des articles qu'il a écrits pour Esprit. C'est quelqu'un qui a très tôt réfléchi aux politiques. Et je pense que quand on a fait de la philosophie, et je peux le dire pour en avoir fait, c'est que cette forme j'ai fait Sciences Po, etc. Bon, mais cette formation philosophique, et peut-être vous n'allez pas me démentir, c'est qu'elle est très puissante. Quand on a commencé à réfléchir de façon philosophique, c'est très difficile de s'en déprendre, et ça imprime vraiment une façon de voir le monde. Donc je trouve ça intéressant, parce que bon, c'est peut-être pas le philosophe roi au sens de Platon, mais il y a quand même, c'est la première fois qu'on aura un président qui a fait de la philosophie et qui a une vision depuis longtemps sur le politique et qui, à mon avis, on lui demande tout de suite, mais il avance méthodiquement comme un joueur d'échecs avec cette pensée peut-être philosophique en tête. Enfin, du moins, je le souhaite.
Oui, moi je suis d'accord. Si on le compare aux trois derniers présidents de la République française, je pense que c'est le seul chez lequel il y a un surmoi littéraire ou philosophique. Parce que les Sumo, les Rolex ou le président HEC qui ne lit jamais de roman ne s'inscrit pas vraiment dans ce qu'a fait Macron pendant cette campagne. J'étais au meeting de Lyon le 4 février où il sort cette phrase étrange qui, à mon avis, parce qu'il était dans un processus attrape-tout, adressait un gros clin d'œil à la gauche différentialiste, à un moment où il donnait des gages à pas mal de monde. Il se trouve que je l'ai vu après le meeting. Je lui ai dit ma pensée. Je lui ai dit je crois que c'est faux. Je vous propose la formule suivante. Il y a une culture française et elle ressemble à une éponge. Voilà. Et je reste sur ce propos. Sur la rupture entre la dislocation droite et gauche, et ce dont nous parlions avec cette formule un peu claironnante, écologiquement claironnante, mais très efficace, je dirais que la planète vote Macron. Parce que sur la COP21, la question, c'est pas la droite ou la gauche. On voit bien que ça ne se détermine pas comme ça. Il y a 190 pays qui sont en jeu, et on est au-delà de la bipolarité française. C'est survivalisme contre hyper-technicisme. Et c'est ça qui est finalement en jeu. Donc on voit bien que l'univers, la circonstance, nous impose de nouveaux clivages qui sont assez loin de nos bipartitions cocardières, peut-être un peu oxydées, en effet.
Alors on peut dire aussi que politiquement il a beaucoup de chance parce que il a su saisir sa chance en répondant comme il l'a fait au président Trump, mais c'est comme si le mérite des accords de Paris lui revenait. Il devient l'homme de la COP21 alors que c'est quand même l'ancien président de la République, objet de tous les colibets, qui a mis en œuvre ces accords.
Mais enfin, oui, mais tante Ségolène Royal va faire le lien entre les deux. Et voilà. elle est ravie que le neveu Macron, comme dans Mickey. Voilà. Donald, avec ses neveux, parle bien dans le coffre de la voiture.
Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le thème de la culture et d'autres thèmes encore, mais l'émission se termine. Alors je voudrais rappeler les titres de vos livres. Les Républicains, Cécile Guilbert, ce roman est publié chez Grasset. Marc Lambron, Les Menteurs, a été publié initialement chez Grasset, mais on le trouve dans le livre de poche. Et je rappelle, Marc Lambron, que vous avez publié tout récemment votre journal de l'année 1997, je crois, 40 ans, et c'est toujours chez Grasset. La semaine prochaine, c'est une émission, Cécile Guilbert, pour deux de vos personnages, Serge et Melchior, beaucoup, qui se disputent beaucoup à la fin du livre, quand la fille en noir rentre chez elle, puisqu'elle aura pour titre « Le grand déménagement du monde » et que mes invités seront Hervé Lebras et Renaud Camus. Alors j'espère que Serge et Melchior seront à l'écoute de France Culture, ça donnera un nouvel aliment à leur querelle. C'était Réplique, donc une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui Julie Garraud, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.